On va commencer Bezrat Hashem, le Perek Memtet, chapitre 49. Je pense qu'on aura deux cours sur ce chapitre, chapitre 49.
Amen.
Donc, chapitre 49, c'est une suite directe au chapitre 48, qui était, lui, une suite directe du chapitre 46 et 47. Donc, je vais faire un point où on en est. À partir du chapitre 46, on a commencé à développer la notion de Hakarat Hatov, la notion que on devait être reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu, que même si je ne sens pas, je vois pas des lumières, je ne suis pas un tzadik, on a expliqué que normalement, Akadosh Baruch Hu nous donne toutes les techniques et toutes les raisons pour faire les mitzvot, ne serait-ce que par reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi reconnaissance? C'est là qu'on a expliqué l'exemple, donc l'exemple qu'on a répété déjà plusieurs fois, l'exemple d'un roi qui va s'adresser à une personne qui est dans la rue, qui est défavorisée, et qui va le prendre et qui va le faire entrer dans son palais, et qui va l'amener... Tu écoutes, c'est pour toi que je fais le preview.
Ouais, j'ai
aussi. Et donc il va le prendre et il va l'amener dans son palais, d'accord? Et il va lui donner encore plus de kavod que ce qu'il donne au ministre. Donc on dit que même si cette personne qui est défavorisée, comme en général tous les clochards comme ça, ils sont insensibles, d'accord? Mais c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, il va craquer, il va dire, attends, le roi de tout le monde, il m'a pris à moi alors que je ne lui sers à rien. J'ai rien à lui apporter. Pourtant, le roi, il m'a pris à moi, il me donne plus de kavod que ses ministres, il me fait rentrer il me fait rentrer à côté de son trône, c'est un kavod. Donc à un certain moment, il va craquer, et même si, à la base, il n'en a rien à faire du roi, mais il va commencer à dire que non, le roi m'a fait quelque chose, il y a un concept de reconnaissance. On avait expliqué dans le chapitre 46 que le concept de la reconnaissance, de manière générale, c'est une nature qu'il y a chez l'homme. Quand quelqu'un il vous sourit, naturellement, vous avez envie de lui sourire. Naturellement, c'est comme ça. Et il faut faire un effort pour ne pas le faire. Quand quelqu'un il vous embête, d'accord, naturellement, vous avez le côté embêtement qui se réveille chez vous, qui dit « il m'a énervé, je vais l'énerver ». C'est naturel, c'est comme ça. Parce que « Kenaï ma panim, kenlev adam la adam ». On a comme des miroirs en face de nous. Quand dans un miroir, quelqu'un fait une grimace, il dit « ah bah s'il fait une grimace, moi aussi je fais une grimace ». Quand il fait un sourire, tu dis « moi aussi je fais un sourire ». Donc on a expliqué que normalement, puisque c'est une nature chez l'homme d'être reconnaissant, donc normalement on devrait être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois à Akadosh Baruch Hu? Alors on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, là on est en train d'un long processus à partir du chapitre 47, on est encore dans ce processus, on a expliqué qu'en fait Akadosh Baruch Hu nous avait sorti d'Égypte. On était en Égypte, si on peut dire, on valait pas grand chose pour lui, on n'avait rien à lui apporter, et il nous a fait sortir d'Égypte, il nous a donné la Torah, il nous a promis Mashiach, il nous a promis des tas de choses. Donc on a dit, à Kadosh Baruch Hu, normalement, on a dit, ah, vous avez vu, c'est logique, normalement, de la même manière que dans mon exemple d'avant, le clochard, dès qu'il s'est senti valorisé, ben tout de suite il se sent reconnaissant vers le roi, ben, de la même manière, nous aussi on devrait se sentir reconnaissant vers le roi. Sauf que, le problème qu'on a ici, c'est que nous, même avec ce que je viens d'expliquer, on ne se sent toujours pas reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que, pour nous, c'est de l'abstrait tout ça. C'est de l'abstrait. Tu me dis, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Tout d'abord, l'Égypte, ça fait 3000 ans. D'accord, je vais bien y croire, mais de là, avoir un sentiment de remerciement, c'est comme si tu me parles à un Africain de, comment il s'appelle l'autre là-bas, des États-Unis, celui qui a enlevé l'esclavage.
Martin Luther King,
ou je sais pas comment il s'appelle. Martin Luther King, c'est lui qui avait la vision.
Abraham Lincoln.
Ah, tu comprends?
C'est pas aussi loin, quand même.
Reconnaissant. Tu prends un Africain aujourd'hui, quand tu prends un Noir aujourd'hui aux États-Unis, tu lui demandes, monsieur, est-ce que vous vous sentez reconnaissant vers les États-Unis? Vous imaginez, il vous devait rien du tout, et vous étiez esclave, et maintenant... Tu prends un gosse maintenant, qui a 15 ans, qui a 20 ans. Est-ce qu'il va... Bon, bien sûr que si tu vas lui expliquer, il va dire, ah, c'est beau, c'est gentil, etc. Mais est-ce qu'il va se sentir reconnaissant vers les États-Unis? Oui ou non, d'après vous? C'est sûr que non. Pourquoi c'est sûr que non? Parce que c'est quelque chose qui ne le concerne plus. C'est pour ça qu'on a expliqué dans le chapitre 47 qu'en vérité, la sortie d'Égypte, ça nous concerne tous les jours. Comment ça nous concerne tous les jours? Parce qu'on dit que chaque fois qu'on fait une mitzvah, et que grâce à la mitzvah ou à la Torah, ça nous permet de quitter le confinement du matériel, ça nous permet de quitter le cocon du matériel, d'accord? Ça s'appelle sortir d'Égypte. Bon, mais on n'avance toujours pas, ça ne nous explique toujours pas. Pourquoi je dois me sentir reconnaissant à Akadosh Baruch Hu? Il m'a dit, Dieu il m'a fait sortir d'Égypte. J'ai dit, oui, mais l'Égypte, c'était il y a 3000 ans. Je ressens rien. Ok. Après, tu m'as dit, oui, mais aujourd'hui, Dieu te fait sortir d'Égypte. Aujourd'hui, quand je fais une mitzvah et que la mitzvah permet de me propulser hors de ce monde, c'est aussi sortir d'Égypte. Oui, mais c'est toujours de l'abstrait. Je sens pas toujours comme quoi je dois quelque chose à Akadosh Baruch Hu. J'essaie de faire ce que je peux. Je fais les mitzvot, mais je sens pas comme quoi Dieu m'a donné quelque chose. Tout ça pourquoi? parce qu'on n'a pas de repère. Et c'est là qu'on est arrivé au sujet du chapitre 48. On a eu 4 cours, il me semble, sur le chapitre 48. On a expliqué les repères. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de repère. On ne voit pas où je suis moi, où est Akadosh Baruch Hu. Donc puisque je n'ai pas de repère, j'ai du mal à sentir comment Akadosh Baruch Hu m'a donné quelque chose et comment je suis redevable. Ça, c'est une notion de base. On parle beaucoup de cette notion dans les livres de Moussa aussi. La notion de Hakarat Hatov, la reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à cette notion-là, d'Hakarat Hatov, on est obligé de mettre des repères. Ça, c'est la chita du Admor HaZaken. L'Admor HaZaken dit, je ne peux pas me sentir reconnaissant envers quelqu'un si je ne sais pas qui il est et qui je suis. Il faut d'abord que je sache qui il est, qui je suis, et là, je pourrais apprécier qu'est-ce qu'il m'a fait. Donc, c'est là qu'on a commencé en chapitre 48, pardon. Qu'est-ce qu'on a dit en chapitre 48 ? On est rentré et on a dit, bon, bah, puisqu'on a besoin de poser des repères, alors on va expliquer ce qui s'est passé lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Monsieur David, est-ce que tu te rappelles? Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, comment ça s'est passé?
Il a dit...
Alors, on va faire un film. Très bien. Non, mais il y a eu un processus. Ah, bien, bien, vas-y, oui. Alors, première étape qu'il y a eu, c'est quoi? Il y a eu une rupture. Ça veut dire que c'est pas dans un système de cause à effet. D'accord? Donc de l'œuf et de la poule, il y a une rupture. Bon, la rupture veut te dire que de toutes les façons, le monde qui est ici, quelque part, n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. C'est une rupture. Bon, après la rupture, on a dit qu'il y a eu deux canaux différents. Il y a le canal de Mémalé et le canal de Sovev. C'est quoi Yaakov, canal de Mémalé, canal de Sovev?
Mémalé, c'est le dit.
Très bien. Et Sovev, c'est le non-dit. Alors en clair, ça veut dire quoi? Dans le monde ci, voilà, par exemple, ici, je mangeais, j'ai un bisli devant moi. Explique-moi ce que c'est ce bisli, d'où vient ce bisli. C'est quoi ce bisli en mémalé, c'est quoi ce bisli en sauvage?
En mémalé, c'est un ensemble de molécules constituées par différentes particules alimentaires.
D'accord, et par la société bisli qui les a fabriquées,
voilà,
etc.
Et grâce à des phénomènes naturels.
Très bien.
Qu'on peut qualifier de naturels.
Donc des phénomènes indépendants. De Dieu.
Indépendant de Dieu.
Très bien. Et Sovev, c'est quoi? Le non-dit. Donc ça, c'est le dit. Ça veut dire ça, c'est ce qu'on te dit explicitement. Et les non-dits, c'est quoi?
Le non-dit, c'est...
Le vide qui est autour des atomes.
Alors, le non-dit, c'est quoi?
Le non-dit, c'est les forces qu'on voit pas.
C'est ce qui fait tourner les choses.
Et qui font vivre le...
Très bien.
Les choses.
Est-ce que le goût, il change? C'est pas le vide.
Alors, justement. Alors, maintenant, quel est l'élément le facteur le plus important? C'est le mémalé ou le Sovev? Le dit ou le non-dit?
Le Sovev.
C'est le Sovev. Donc le mémalé, en vérité, on a expliqué, c'est seulement une...
Une apparence.
C'est une apparence qui n'est pas fausse. Pas comme dans Matrix.
Le plus important, d'accord, c'est le...
Oui.
Le plus important, c'est Sauvez, c'est savoir ce qui se passe derrière.
Le non-dit.
Bien sûr. C'est pour ça qu'on dit que quand Machar va venir, c'est écrit qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Il dit que quand Machar viendra, vous verrez. Tout le monde pourra voir. Je crois qu'on va voir. On voit déjà maintenant. Ça veut dire qu'on va être capable de voir ce qu'il y a derrière la matière.
Voilà. C'est une apparence.
D'accord. C'est une apparence. Très bien. Bon. Donc, on a expliqué la différence entre Mémalé, la différence entre Sauvez. D'accord. Et avec ça, on a expliqué, d'accord. Bon, après, on a amené plusieurs exemples. Bon, on avait amené l'exemple avec Maïmonide, que ou Amada, ou Yodé, ou Yadoua. Ça, c'est une parenthèse avec laquelle on avait conclu la semaine dernière. On avait dit que Akadosh Baruch Hu, c'est la connaissance, celui qui connaît, d'accord, et la chose sur laquelle est connue. Bon, mais je ne vais pas rentrer dedans parce que ça, c'était une parenthèse.
Et surtout, on avait dit que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il faut l'aimer? Parce que si cesse de penser à nous, ne serait-ce qu'une seconde, on dit.
Voilà, exactement. Parce qu'on n'existe qu'en penser. D'accord. Mais ça, c'est une parenthèse. Encore une fois, c'est pour placer un repère. Donc si on dirait la conclusion, voilà, okay, voilà, tu viens d'arriver, chapitre 40, on n'a pas démarré encore dans les mots. Ça veut dire que si on devrait conclure le chapitre 48 en un mot, chapitre 48 en un mot, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé des repères. On a expliqué que Akadosh Baruch Hu, d'accord, on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, par rapport à nous, c'est incomparable. On ne peut pas comparer le fini et l'infini. On ne peut pas comparer le dit et le non-dit. C'est incomparable, on ne peut même pas essayer de comprendre. Très bien, donc là on commence à comprendre on commence à comprendre comment on est vraiment insignifiant par rapport à Dieu. Jusqu'à présent, on croyait qu'on était insignifiant. Maintenant on se dit non, tu sais quoi? Insignifiant face à Kadosh Baruch Hu. D'abord, quand il t'a créé, il a fait une rupture. Même après la rupture, ce que tu crois être en vérité, c'est que une apparence, une façade. D'accord? Alors qu'en vérité, ce qui se passe réellement, c'est du sauvage. Donc c'est le non-dit. Bon, très bien. Alors quand j'entends ça, je dis bon, il n'y a pas de problème, alors on ferme la boutique. Ok, c'est mieux que de toutes les façons, Dieu a fait une rupture, et que ce que je crois être, c'est rien du tout par rapport à ce que je suis vraiment.
Donc il
n'y okay. a pas de libre arbitre, donc il n'y a pas besoin de moi, donc laissez-moi tranquille. Alors enlève-moi ma vie, ok, je ne sers à rien, pas de problème, ok, d'accord, je ne sers à rien, dites-le moi. C'est là qu'on va arriver au chapitre 49. Le chapitre 49 qui va nous reprendre, qui va faire exactement la même chose qu'au chapitre 48, sauf qui va nous reprendre le... Il va nous, donc le chapitre 49, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre le processus de la création du monde, et il va nous expliquer comment tout ce processus est fait pour nous. Je répète. Oui. Dans le chapitre 48, on a expliqué comment, quelque part, pour un Kadosh Baruch Hu, que ce qu'on a ici, ce qu'on voit ici, ça veut dire que les molécules que je vois dans le bisli, c'est rien par rapport à ce qui se passe réellement. Tout d'abord, il y a une rupture, après cette rupture, il y a un canal sauvage, un canal malais, c'est rien par rapport à ce qui se passe réellement. Maintenant, ce qu'on va faire en chapitre 49, on va complètement renverser la situation. On va dire que non, au contraire, tout le processus a été fait pour ce bisli-là, pour cette molécule-là. Alors, vous allez voir. Je sais que ça paraît compliqué, mais vous allez voir, c'est pas du tout compliqué.
Alors, attends, coca, s'il te plaît.
David, il y a 4 sacs remplis encore. Hein.
Ah ben, bon, tu...
Bah, on t'a le problème, c'est la colline d'or.
On peut bien dépêcher.
Comment pas zoomer, mais aller au sommet.
Voilà. Alors, on y va. C'est vrai que même texte. Ah ben, on vient de finir le résumé. Alors, tu prends la page même texte, même tête. Ah oui, je l'ai vu trouver, je l'ai vu sur internet. Hein ? C'est pas mal avec la traduction en anglais, l'explication en anglais.
Thank you.
Il y a une application iPhone qui s'appelle Tania. Avec la traduction en anglais, ouais.
J'ai vu.
Hein ? Formidable, voilà. Arklifo d'Ortaïo ? Veine. Donc maintenant qu'on a fait cette introduction, désolé pour ceux qui viennent d'arriver, mais tout le monde est venu un peu en retard aujourd'hui, d'ailleurs c'est l'occasion pour vous dire qu'il faudrait essayer si possible de venir un peu plus tôt. Ça, si on commence plus tôt, on finit plus tôt. C'est 8h30. Si on commence plus tôt, on finit plus tôt, ou bien on finit à la même heure. C'est encore mieux, on a plus de cours. Veine. C'est avec même tête. Page 136. Veine.
Tu as fait une autre chose avec le mien ?
Ah oui, j'ai fait tout un... J'ai tout retracé. Hein. Veine. Av qui pratait, Prinat à Esther. Donc ce qu'on va faire maintenant dans le chapitre 49, comme on a dit, on va essayer d'expliquer... Quelle est la valeur de l'homme dans tout ce processus? À quoi sert l'homme dans tout ce processus? Jusqu'à présent, on a expliqué.
C'est ça que tu as retracé depuis le début.
Non,
je reviens pas, moi.
Non, là, pas.
Moi, j'ai besoin, il fait froid, c'est pour ça.
Tu as bien raison.
Tu parles comme un russe, là. Tu comprends pourquoi vous prenez la vodka?
J'ai besoin de carburant.
Veine. Av qui pratait prinat à Esther VLM Orensov Vankrou. Beishalchelut à Olamot. Bien que. Donc dans le chapitre 49, donc tu m'as arrêté Yves avec la vodka. Avec la bourre. Bien que dans le chapitre 49.
Ça finit toujours.
Pardon. Bien que dans le chapitre 48, on nous a démontré que l'homme était insignifiant par rapport à Kadosh Baruch Hu, on a démontré que dans le processus de notre création, il y a eu d'abord la rupture, après Mémalé, après Sauvé, avec en vérité on n'est rien, on est insignifiant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Maintenant ce qu'on va expliquer, c'est pourquoi tout de même, non seulement qu'on est signifiant, on est significatif, on vaut quelque chose, mais en plus, l'homme est le centre de la création. Donc on va retourner complètement la situation. Ça va prendre du temps, je pense qu'on en prendra 2 cours. Veine. Av qui pratait prinat à Esther VLM Orensov Baruch Hu, bien que les détails du processus, comment Kadosh Baruch Hu s'est voilé progressivement. Donc on a expliqué, on a dit il y a eu la rupture, après il y a le Sovev, il y a le Mémalé, donc il y a la rupture, après le non-dit, après le dit. Bon, il y a eu un processus. D'accord ? Beishtal Shelut à Olamot, dans l'enchaînement des mondes. Alors maintenant on avait expliqué une fois ce que c'est les mondes. Olam en hébreu, ça vient du terme Elem. Elem en hébreu qui veut dire. Voilé. D'accord ? Caché. C'est pour ça que quand on dit, chaque fois qu'on vous entendez dans un cours, les mondes, de quoi on parle des mondes, on n'est pas dans un jeu en train de faire des mondes ici. De quoi on parle quand on dit les mondes, ça veut dire que plus on descend, et plus Akadosh Baruch Hu, il se voile. Donc la rupture, après Sovev, après Mémalé. Alors il dit, bien que ce que je t'ai présenté jusqu'à maintenant, ça avait l'air très simple, la rupture, Sovev, Mémalé, mais nous on sait très bien que, Hatch, Nivra, Olamazé, Agashmi, les détails, nous on a donné les grandes lignes. Mais les détails de cet enchaînement, jusqu'à que le monde, que notre monde matériel a été créé, Atzmou Misaper. Ils sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas les compter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les compter. C'est-à-dire que... Bon, il va expliquer tout de suite. Pourquoi ils sont tellement nombreux ? Ou minim, iminim, shonim. D'accord ? C'est pas seulement en quantité. D'accord ?
C'est deux notions différentes, le voile...
C'est pas seulement... Ouais, maintenant, je connais ces sonneries.
Ils ont tous des iPhones maintenant.
Même Guise Magazine.
Même qui? Bah, c'est la sonnerie de l'iPhone, ça.
Il faut sortir l'iPhone.
C'est la même notion, le voile et l'occultation, pour toi?
Non.
On l'avait abordé.
On l'avait abordé, oui, chapitre 41.
C'est différent, hein.
Ouais.
Tu vois un lien entre même aller et sauver, entre les deux, hein?
On peut voir ça comme ça, oui. On a vu chapitre 41. Donc...
Moi, je suis pas au iPhone.
Ça va bien.
Ah, il faut... on va faire une application cours de Tania. Hein, ça.
De Aïtania.
Aïtania. Très bon. C'est un groupe sur Facebook, enfin, faut s'habituer maintenant. Donc, ou minim, shonim. Donc, c'est pas seulement en quantité. C'est pas seulement en quantité que bon, Akadosh Baruch Hu, donc au début, Akadosh Baruch Hu était très grand, et plus on va avancer, et plus il va devoir se réduire et se cacher, se voiler, jusqu'à que notre monde ici-bas ait été créé. Non. C'est toutes sortes de timtsumim, c'est toutes sortes de, donc toutes sortes de compression et de voix que Kadosh Baruch Hu s'est caché. Kayadua, les Toamim Me'etz Achaim. On ne va pas les citer. Comme c'est connu, les Toamim Me'etz Achaim, pour ceux qui savent goûter, mais Me'etz Achaim de l'arbre de vie. C'est quoi l'arbre de vie? Alors l'arbre de vie, de manière générale, c'est un jeu de mots qui fait le Morazak Enifi. L'arbre de vie, de manière générale, c'est tout ce qui est la profondeur de la Torah. Le Zohar, c'est écrit comme ça, toute la partie dévoilée de la Torah s'appelle l'arbre de la connaissance. Et toute la partie cachée de la Torah, le Zohar, donc basé sur le Zohar, s'appelle l'arbre de vie. Mais à part ça, Etz Chaim, c'est aussi le nom d'un des principaux livres, d'un des livres principaux de Rabbi Chaim Vital. D'accord, donc c'est un jeu de mots qui dit Admon Hazaken. Il dit que ceux qui s'y connaissent en Kabbalah, donc la Kabbalah c'est l'arbre de vie, et ceux qui s'y connaissent aussi dans le livre Etz Chaim du Rabbi Chaim Vital, ils verront que là-bas, il y a des pages et des pages, des centaines de pages sur ça pour expliquer les différences et les nuances, et avec ça, pour arriver à la conclusion qu'on ne comprend pas. Bon, ça veut dire que de manière générale, pour arriver à ce monde-ci, il y a eu beaucoup de nuances. On peut essayer peut-être de donner un exemple pour comprendre ce que vient ici de Morazaken. C'est comme si on voit dans ce monde-ci, le monde ici-bas, le monde de Asiya. Normalement, on est tous censés être sur le même niveau. Ce qu'on expliquera dans la suite du chapitre, qu'il y a quatre mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Donc nous, tout le monde ici, toute la planète Terre, enfin toute la planète, tout l'espace, est censé être inclus dans Asiya. Et pourtant, on voit bien qu'il y a des myriades de différences entre les gens, entre la perception du divin. Pas tout le monde perçoit le divin de la même façon. Il y a des myriades, c'est pas du tout la même chose. Pas seulement ça, chez la personne même, chez moi-même, la manière comment je percevais le divin quand j'étais petit, et plus je vais avancer, et plus je vais percevoir le divin, ça va changer. C'est-à-dire que les nuances, c'est sans fin. Mais, bien que les nuances sont sans fin, mais de manière générale, on va découper ça en quatre niveaux, en quatre mondes. D'accord ? C'est-à-dire les nuances, c'est-à-dire la Nourazakane te dit, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a que trois mondes ou que quatre mondes. Les nuances, tu en auras des myriades. Mais nous, ce qu'on va faire maintenant, toujours dans le processus pour expliquer comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde, va expliquer que, de manière générale, il y a trois grandes entités, trois grands groupes. Arderer Klal, donc je vais avancer un peu dans les mots, après on va expliquer. Arderer Klal, Em shlosha mine timtsumim atsumim klalim, li shlosha mine olamot klalim. De manière générale, on a trois grandes étapes. Je ne sais pas si le mot étape, c'est un bon terme ici. Quand on veut dire que c'est trois... Ouais, shlavim, bon. Shlavim, trois stades.
Trois parties, non?
Bon, je pense que le terme monde, c'est comme dans les jeux, il y a les mondes.
Trois levels, quoi.
Trois levels, voilà.
Trois niveaux.
Trois niveaux, trois... Non, mais ce que je vais expliquer ici...
Ils sont parallèles.
Non, la notion que je veux faire... Le point que je veux faire ressortir ici...
Trois grands points.
C'est que dans chacun de ces niveaux, on va avoir des myriades de niveaux. Sans fin. D'accord ? Dans chacun des niveaux, on va avoir... On va appeler ça des stades. D'accord ? Il y a trois stades. On va découper ça en trois stades. Dans le processus de la création du monde. Donc, Arderer Klal, je reprends, Arderer Klal, Em Shlosha Mine Tzimtzumim. De manière générale, nous dit l'Admor HaZaken, on a ici trois catégories de Tzimtzumim, de compression, c'est-à-dire trois stades. Ou Bechol, l'Ishlosha Mine Olamot Klalim, qui vont correspondre à trois mondes généraux. Ou Bechol Klal, Gejribe Revavot Pratim. Et dans chacune de ces entités, de ces trois stades, on aura des myriades, d'accord, donc sans fin, de détails. Alors, c'est quoi ces trois stades-là? Vehem shlosha olamot bria yetira asiya. Ça correspond aux trois mondes de bria yetira asiya. Alors, je vais refaire le point. On va expliquer. Rappelez-vous ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Yaakov, tu peux nous expliquer ce qu'on a dit la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est quoi la première chose qu'il a fait?
Que le monde, le monde.
Première chose, Akadosh Baruch Hu, quand il a démarré, la première chose qu'il a fait, c'est quoi?
Tzimtzoum.
Attention, il y a plusieurs catégories de Tzimtzoum.
On va dire la rupture, la première.
La rupture. Alors, il y a Tzimtzoum et derrière... Alors,
on avait dit qu'il y avait... Y avait
bon, je ne veux pas vous embrouiller, mais c'est une notion qui revient souvent... Non, ça, je ne rentre pas dedans. Ah. C'est une notion qui revient souvent dans le livre de Kabbalah, Tzimtzoum bederech siluk ou Tzimtzoum bederech miut. D'accord. Donc on va pas employer le terme Tzimtzoum, on va dire rupture. Parce que le terme Tzimtzoum peut vouloir dire rupture et peut vouloir dire aussi réduction,
contraction.
Bon, alors, qu'est-ce que nous a dit Yaakov? Premier stade, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait
une rupture.
Donc un Tzimtzoum bederech siluk. Bon, peu importe, il a fait une rupture. D'accord. Après la rupture, on va avoir quatre mondes qui vont représenter, d'accord, la transformation du spirituel
au matériel.
Le premier de ces quatre mondes s'appelle comment? Donc on est
Atzilut.
Tout en haut.
Il
s'appelle Atzilut. Atzilut en hébreu, ça veut dire quoi? Atzilut en hébreu, ça vient du mot Etzel.
Immanence.
Etzel en hébreu, ça veut dire c'est celui qui est le plus près d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Atzilut, Atzilut, c'est un monde dans lequel il n'y a pas du tout de matériel. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le fait qu'une mitzvah, je vais expliquer parce que c'est une notion qui, si on ne comprend pas tout de suite, après on aura du mal à comprendre la suite. C'est là, vous avez l'application Tania?
Ah. Non, je cherchais Atzilut.
Atzilut.
Le monde de l'émanation.
L'émanation, ils disent.
Oui, ils appellent ici l'émanation. Comment tu fais pour ici? Atzilut. Ça veut dire monnaie de sale, bon. Noblesse,
grandeur, émanation, générosité.
Bon. On va je pense que l'émanation, c'est le meilleur.
Démocratie, noblesse de cœur.
C'est-à-dire c'est un monde pur, quoi.
Ouais.
C'est la classe.
Alors, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire ici. Ce qui veut dire ici le mot Zaken. Avant la rupture, si on peut dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas de forme. Ça veut dire que même le concept de Torah et Mitzvot n'existe pas, ne peut pas exister, par définition. Puisque Torah et Mitzvot, c'est déjà une forme. C'est-à-dire que si tu veux aimer Akadosh Baruch Hu, il y a un mode d'emploi, il faut suivre un mode qui est compréhensible. Torah et Mitzvot, c'est déjà une forme. C'est déjà quelque chose. Avant la rupture, il n'y a rien de tout ça. Après la rupture, même le spirituel va devoir être formé. C'est-à-dire que même le spirituel va prendre une forme. Vous me suivez ? Avant la rupture, il n'y a pas de forme, zéro forme. Enfin, nous, en tout cas, on ne peut pas comprendre. Oui. Tohu va vous, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec nous. Après la rupture, même le spirituel va prendre une forme. Ça, c'est l'étape de Atzilut. L'étape de Atzilut, c'est quand le spirituel prend une forme. Après Atzilut, on va avoir trois étapes qu'on va développer ici, à partir desquelles le spirituel va progressivement se transformer, d'accord, en matériel. Donc je répète, première étape, Yaakov, c'était la rupture. Après rupture, c'est quoi? C'est le spirituel qui va prendre une forme. Et après ça, on aura trois étapes qui vont s'appeler Bria, Yetira, Asiya. Bien que dans chacune de ces trois étapes, on peut retrouver des myriades de niveaux, sans fin, d'accord, sans fin de nuances. Mais de manière générale, on retrouve trois grands groupes ici. C'est quoi les trois grands groupes? Bria, Yetira, Asiya. Là, il explique tout de suite. C'est quoi ces trois grands groupes? Kiolam, alors, juste pour vous rappeler encore une fois, pourquoi la Tmourazaka nous fait tout ça? C'est parce qu'à la fin, on veut arriver à l'explication que l'homme...
Il est super important.
C'est-à-dire, les quatre cours qu'on a fait avant,
il vaut rien, il sert à rien,
on a fait une rupture pour te créer, et même ce que tu crois comprendre, c'est du dit, mais en vérité, le plus important, c'est le non-dit, tu comprends rien du tout, etc. Bon, alors, ok, dans ce cas-là, je ferme le livre, ok, laissez-moi tranquille, j'arrête d'exister, laissez-moi tranquille. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on va te dire? Maintenant, on va retracer complètement et on va nous expliquer comment tout ce monde-ci, en vérité, était créé pour nous. Donc, on a démarré. Il y a eu la rupture. Après la rupture, au stade de Atzilut, on a dit c'est là que le spirituel commence à prendre forme. Très bien. Maintenant, Bria Yetira Asiya. Ça, on va commencer à comprendre. Alors, Kiolam Atzilut ou Elokut Mamash? On a dit que Atzilut, c'est de la pure divinité. Seulement, le seul concept de Atzilut, c'est quoi? Atzilut, on a dit, c'est quand la divinité va prendre forme. Si on peut comprendre. C'est-à-dire que ça prend forme. Avant, il n'y avait pas de forme, maintenant, ça a pris une forme. Torah, mitzvot, je sais pas, Gan Eden, les grandes sadikim, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. Ça prend forme. Ça a pris une forme spirituelle. Donc, des livres Olam Abria, pour créer le monde de Bria, donc là, on va commencer à transformer le spirituel en matériel. Le monde de Bria, on l'a expliqué dans chapitre 39, chez M. Neshamot ou Malachim Adyonim. Le monde de Bria, c'est le monde dans lequel se trouvent les Neshamot, donc les Neshamot d'Israël, et les grands Malachim, parce qu'on a dit qu'il y avait deux catégories de Malachim. Il y a des Malachim qui sont dans Bria, et les petits Malachim, ils sont dans la catégorie d'en dessous. D'accord ? On l'a dit dans le matin, juste avant le Kriyat Shema. Asher avodatam lachem, biprinat chabad, biprinat chorma, binat da'at, mitlapshim ba'em, ve'em masigim ou mekablim me'em. Alors, donc, ce qu'on va essayer de faire ici maintenant, on va essayer de transformer le spirituel en matériel. Pour transformer le spirituel en matériel, on va passer par trois étapes. On va passer par la compréhension, le sentiment et l'action. Alors, je vais donner un exemple. D'accord, moi, j'ai pas vu cet exemple, mais moi, quand j'ai réfléchi, je pense que c'est un bon exemple. C'est comme ce qu'on voit la différence qu'il y a entre un enfant et un adulte. Quand vous allez voir, mais là, ça va dans l'autre sens. Entre un enfant et un adulte. Si vous ne comprenez pas, dites-le moi. Entre un enfant et un adulte. L'enfant, quand il naît, ce qu'il y a de plus primaire chez lui, avant même qu'il développe ses sentiments, c'est l'action. C'est-à-dire le fait, par exemple, qu'il doit manger, les réflexes, l'action. Après, quand il va grandir un petit peu, il va développer très fortement ses sentiments. Quand, par exemple, un enfant, il se met à crier, il veut un bonbon. Vous croyez qu'il ne sait pas, qu'il dérange tout le monde autour ? C'est très bien. Seulement, à ce moment-là, le cerveau de l'enfant n'est pas développé. La seule chose qui est développée, c'est ses sentiments. Le caractère, si vous voulez. Le caractère, il est très présent. Donc, quand il va grandir un peu plus, il va développer son caractère. Quand il va grandir encore, qu'est-ce qu'il va développer ? Il va développer son cerveau. Donc, son cerveau va lui apprendre à dominer son caractère pour dominer, d'accord, par ricochet, ses actions. Donc, les actions... les sentiments, donc le caractère, si vous voulez, et le cerveau. Alors, donc là, on voit clairement, d'accord, comment l'homme, plus il va avancer, et plus il va se transformer du matériel vers le spirituel. Plus on va avancer dans la vie, et plus on va essayer de se raffiner. Quand je suis enfant, ben je suis d'abord, j'ai que l'action, après, je commence à avoir les sentiments, et après, j'apprends à maîtriser mes sentiments. Très bien. Alors maintenant, on va passer de l'autre sens. Chez Akadosh Baruch Hu, donc, dans le monde de Hatzilut, qu'est-ce qu'on a dit ? D'abord, il y a eu la rupture. Après la rupture, il y a eu Hatzilut. On a dit Hatzilut, c'est quoi ? Le spirituel a pris une forme. Très bien. Maintenant, ce qu'on veut, transformer le spirituel en matériel. Alors, d'après vous, quand on doit transformer le spirituel en matériel, comment on doit s'y prendre ? C'est quoi les étapes qu'on doit obligatoirement passer ? Transformer un concept spirituel en concept matériel. Quand j'entends matériel, ça veut dire physique. On va passer par ces trois mêmes étapes. La première étape sera une étape dans laquelle le concept qui était donc spirituel, il va commencer à se matérialiser dans la tête. D'accord ? Matérialiser dans la tête. Deuxième étape, le concept, on va le ressentir. Là, il est déjà descendu beaucoup plus. Troisième étape, on va rentrer dans l'action. C'est ce qui correspond à Bria, Yetzira, Asiya. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire ? Sinon, je répète. Parce que c'est sinon, on ne comprendra pas la suite.
Penser, parole, action, c'est ça. Ça, on peut penser sur ce concept-là, penser,
parole, action. Non, c'est pas exact. Enfin, non, parce que Marshava Dibur Maase, c'est des formes d'expression. C'est pas de ça que je suis en train de parler ici.
Mais c'est pareil.
Là, je suis en train de parler de formes de compréhension.
Mais tu dis spirituel, matérialisé et action. Comment tu veux faire ?
Sentiment.
Alors, c'est pour ça que je donne l'exemple d'un enfant. Parce que dans l'enfant, on le voit. La différence entre l'adulte et l'enfant et l'adulte, on voit clairement qu'on passe par ces trois étapes. Que lorsqu'on est bébé, d'accord, un bébé lorsqu'il est dans le ventre de sa mère et lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il n'a pas vraiment de sentiment encore. Il a un caractère peut-être, mais son caractère n'est pas très développé. Ce qui est de très fort chez lui, c'est l'action. C'est ce qui est de plus primaire. Ensuite, il va grandir un peu plus, qu'est-ce qu'on a dit ? On voit comment son caractère se développe. On le voit clairement chez un enfant. Ah bah au prochain, j'ai des petits-enfants, je l'ai vu de mes yeux. Je n'ai pas besoin de l'expliquer. On voit clairement comment le caractère se développe. Se forge son caractère. Mais il ne réfléchit pas encore. Ça veut dire que le plus fort chez un enfant, c'est le caractère. Je veux quelque chose. Je veux faire ci, je ne veux pas faire ça. Ah, c'est pas logique, il réfléchit pas, il n'y a pas logique, pas logique. Je veux pas. Après, avec le temps, lorsque l'enfant va grandir, on va lui expliquer, d'accord, que même si tu veux certaines choses, mais ça se fait pas. D'accord, ou bien même si tu veux pas le faire, il faut le faire. Ça veut dire que le cerveau doit maîtriser les sentiments qui eux maîtrisent, enfin le caractère qui eux maîtrisent les actions.
Dis bonjour à la dame.
Oui. Ah, oui. Dis bonjour à la dame.
Elle n'est pas belle.
Alors attendez, une seconde alors. Le bébé quand...
Dis bonjour, mais elle n'est pas belle.
Le bébé quand il sort du ventre de sa mère. Il ne voit même pas la dame.
Quoi? Oui, bon,
bah là, il voit même pas la dame. Ni il veut pas, il n'y a pas de sentiment encore.
Non, mais il voit pas.
D'accord, il voit pas. La question ne se pose pas. Après, il va développer son caractère. En général, on dit que c'est à la deuxième année. En général, la deuxième année de l'enfant, entre 1 et 2 ans, c'est là qu'il développe très fortement son caractère. D'ailleurs, on l'appelle l'âge du non. D'accord? Le non.
Des fois, ça continue jusqu'à 40 ans.
Oui, des fois, ça continue. Il y en a que ça s'arrête jamais. De manière générale, l'âge du non, c'est l'âge où l'enfant il dira non à tout. Il ne réfléchit pas, la tête dans le mur. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Mais après, progressivement, qu'est-ce qui va se passer quand on va grandir?
Qu'est-ce qui va se passer?
Après, on apprend à réfléchir, on apprend à se contrôler, on apprend à...
Ça s'appelle d'accord la diplomatie.
Ça dépend ce que les parents lui mettent dans la tête. Donc je répète, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, quand on a première étape, la rupture. Après la rupture, le spirituel va prendre forme dans l'étape de Atsilut. Ça, on n'en parle pas. Nous maintenant, d'accord, voilà. Aujourd'hui, on va se focaliser sur Bria, Yetira, Asiya. Bria, Yetira, Asiya, c'est la transformation, d'accord, la mutation du spirituel en matériel. Le spirituel va se transformer en matériel. Donc je dois prendre un concept spirituel, et je dois le transformer en matériel. Comment je m'y prends? Alors d'abord, je vais y réfléchir. La réflexion, c'est encore un peu spirituel, mais ça prend déjà une certaine forme matériellement. Après, je vais me mettre à le sentir, d'accord, comme je vais expliquer ici. Je vais me mettre à le sentir. Quand je vais le sentir, là, ça va descendre encore plus. Et après, je vais le faire. Alors moi, je sais que c'est pas encore très clair, donc on va lire dans les mots, et Bezrat Hashem, on comprendra. Ou que des livres. Je sais pas quelle est. Elle commence par quoi la ligne que délivre. Non, ah oui, non, on avait déjà avancé, oui. On va reprendre à où que délivre. On prend la page d'avant. La ligne qui commence. Où que délivre. La ligne qui commence à Atsilut. Je sais pas où c'est dans le.
Cinquième ligne, sixième ligne au milieu.
Ouais. D'accord. Où que délivre. Vous avez. Où que délivre. Olam Abria. Pour créer. Le monde donc de Bria, le monde de Bria, She'em Neshamot ou Malachim Elyonim, ça c'est ceux qui arrivent à percevoir Dieu, d'accord, en mode pensée. Ça veut dire que la pensée, une pensée, on ne peut pas toucher une pensée. D'accord, une pensée, on ne peut même pas la sentir. Une pensée, c'est vraiment spirituel. C'est vrai que ça commence à prendre forme dans le matériel, mais c'est spirituel. Ça, c'est les Neshamot Israël.
Quand je dis spirituel, je veux dire abstrait.
Abstrait, oui. Oui, parce que nous, on est matériel, donc on appelle ça abstrait. Donc, She'em Neshamot ou Malachim Elyonim, ça correspondrait au Neshamot et au Malachim, d'accord, au Malachim, les grands Malachim, Asher Avodatam Lachem Biprinat Chabad, que eux, ils vont servir Dieu en mode pensée. Ça veut dire que eux, ils vont être capables de palper Akadosh Baruch Hu, de sentir Akadosh Baruch Hu,
de manière intellectuelle,
et ça veut dire que ça sera presque Atsilut. Atsilut, il y a zéro matériel, il n'y a que du spirituel. En mode pensée, c'est celui qui arrive à se mettre à la place d'Akadosh, c'est-à-dire celui qui arrive à presque arriver au spirituel. Il va arriver jusqu'à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Ça veut dire que ni il est dans le matériel, ni dans les sentiments, il est dans la pensée. C'est ce qui est de plus abstrait possible. Après, bien sûr, il y a Atsilut. Ve'em Masigim ou Mekablim Mehem. On va avancer quelques lignes pour avoir un peu l'image de ce qu'il veut dire de Morazaken. Ve'em Masigim ou Mekablim Mehem. Ayat Rila Tsimtsum Atsum Kanal. Donc, pour créer le monde de Bria, qui correspond aux Neshamot, et aux grands Malachim, qui perçoivent Dieu en mode pensée, d'accord, Ayat Rilat Simsum Kanal. Il y a eu déjà une compression extraordinaire. Ça veut dire que pour passer de Atsilut à Bria, pour passer du totalement spirituel à la pensée, La pensée, c'est déjà une forme de matériel. Est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir comment on peut définir une pensée? Comment on peut définir une pensée? C'est... Voilà, donc très bien. C'est un très bon point ce que tu dis. Le seul point par lequel on peut définir une pensée, c'est par la structure. D'accord?
Guy, Guy Smadja a dit quelque chose d'intéressant.
Malgré le retard, pertinent.
Alors Guy, vas-y, dis-moi, c'est quoi une pensée? Donc une pensée, tu nous as dit, c'est... Donc, en quoi une pensée est matérialisée?
Définir dans un cadre.
Très bien. Ça veut dire qu'une pensée n'est pas un objet matériel. D'accord? Quand je sens quelque chose, par exemple, quand je sens, je peux sentir, par exemple, que mon corps va se crisper. Donc, quand, par exemple, j'ai un sentiment de crainte, je sens que mon corps va se crisper ou que mon corps va s'ouvrir. Ça veut dire que ça se traduit dans le matériel. C'est pas le cas de la pensée. C'est pas du tout le cas de la pensée. Une pensée, on pourrait dire, c'est abstrait, comme vous avez dit. Sauf que, pourquoi je dis pas que c'est abstrait? Puisque la pensée est structuré. Après l'étape de la pensée, on a l'étape des sentiments. Pardon?
L'abstrait, une pensée n'est pas forcément structurée. Elle peut être abstraite, désordonnée. On la structure par volonté, mais elle n'est pas forcément de nature structurée.
Oui, mais ce qu'on veut dire, ce que je veux dire.
C'est une pensée que de structurer sa pensée.
Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que quand on commence à rentrer dans le mode pensée, on rentre dans quelque chose qui, par nature, est structuré. C'est-à-dire que par nature, c'est quelque chose de logique. On commence à entrer dans la logique. Donc la logique, c'est déjà une forme de matériel. Je n'ai pas dit qu'on a tout compris. On peut laisser évader son esprit. Mais je dis que la pensée, le concept même de la pensée par définition, c'est quelque chose de logique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se comprend. Ou qu'on comprend qui ne se comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a une structure. Et donc, qui dit la structure, c'est-à-dire que des fois, je peux décider de suivre la structure, et je peux décider de ne pas suivre la structure. Mais le fait que je décide de ne pas suivre la structure, ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié à la structure. C'est lié à la structure. C'est comme, je vais vous donner un exemple. C'est comme, par exemple, je prends un stylo et je vais mettre à dessiner. Un dessin, par définition, c'est quoi? Ben, normalement, un dessin, par définition, c'est quelque chose de structuré. Maintenant, je peux décider de faire des gribouillis. Mais pourquoi j'appelle ça des gribouillis? J'appelle ça des gribouillis parce que je sais que, normalement, avec un stylo, on fait quelque chose de structuré. Donc là, j'ai utilisé le stylo pour faire quelque chose de pas structuré. Ça veut dire que, par définition, un dessin a un rapport avec la structure. Il y a un sens dans un dessin, il y a un sens. Ça commence à prendre un sens. D'accord? Peut-être on ne va pas dire le terme structure, on va dire sens, si vous voulez. Enfin, on va pas rentrer dans des... Après, c'est les définitions. Alors, donc, la pensée... Alors, l'application Tania, comment il traduit ici? C'est bien traduit ou pas?
Oui, c'est pas mal.
D'accord. Alors, la pensée, donc pour passer de l'étape atilut, ça veut dire totalement spirituel, à l'étape bria, ça veut dire en mode pensée, ça veut dire que là, le spirituel, c'est encore du spirituel, mais il commence à prendre forme, il commence à être structuré. Il commence à être structuré. Qu'est-ce qu'il dit ici? Pour passer de atilut à bria, on est passé par ayatrila timtsum atsum kanal. On est passé par un tsum, par une compression extraordinaire. Ça ne s'est pas fait comme ça. Déjà, le fait même de passer de totalement spirituel à la pensée, qui est abstraite, mais bon, qui commence à prendre une structure et une forme, c'est des, pour faire ce saut-là, il faut déjà un tsum extraordinaire. Vechen mibria liyetira. De la même façon, pour passer de bria à yetira. Donc de Bria Yetira, ça veut dire encore une fois, donc même si on ne rentre pas trop dans les détails, ça veut dire, pour passer de Bria Yetira, ça veut dire après, rappelez-vous, qui c'est qui se rappelle? Yetira, c'était le monde de qui?
Yetira, c'est le monde des sentiments.
Oui, d'accord, mais on avait dit. Atilut, c'est le monde des grands tzadikis.
Non,
c'est le chapitre. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça.
Non, c'est le Ria.
Les Benoni, Benoni.
Quoi?
Là, quand tu dis ça, je comprends pas.
C'est-à-dire?
Quand tu dis Atilut, c'est le monde des grands tzadikis. Les grands échamotes, elles sont dans le monde d'Akian.
C'est bien, bien sûr, c'est justement ça.
Donc je comprends pas.
Alors. Parce que c'est une manière...
Les grands tzadikim, ils sont en dessous.
Non, c'est le monde
qui peut... un niveau où ils sont en dessous, puisque Atzilut,
c'est... le monde qui peut...
Le spirituel, allez, on va dire, le spirituel infini.
C'est pas géographique, c'est une perception, on l'a expliqué plusieurs fois dans les dernières semaines.
Oui.
C'est que c'est pas un concept géographique.
C'est pas en haut, en bas, peu importe.
Non, c'est encore une fois, c'est pas un concept géographique. On essaie d'expliquer jusqu'à combien le tzadik est capable de percevoir le divin. Nous, la majorité de Neshamot, c'est des Neshamot de Asiya. Ça veut dire qu'on perçoit pratiquement que du matériel, on ne perçoit pas le spirituel. C'est-à-dire que nous, on est à la quatrième étape de l'échelon. D'accord ? Très bien. La neshama. La neshama. Bien. Mais moi, je te parle, le gouffre, notre corps, tel qu'on est ici-bas.
Le corps est animé par une neshama.
Une seconde. Laisse-moi finir. On parle de perception ici. Notre neshama, d'accord, en vérité, elle perçoit des signaux. Ces signaux, ils sont au niveau de Bria. D'accord ? Les grands tzadikim, eux, ils perçoivent des signaux qui sont plus poussés. Les signaux que nous, on peut percevoir, c'est des signaux qui sont à l'étape pensée. Ça veut dire à l'étape où le spirituel commence à devenir matériel. Ça, c'est notre neshama. Ça ne veut pas dire qu'on le ressent. C'est notre neshama qui peut percevoir des signaux. De manière générale, on ne le ressent pas. Parce que notre corps, il est à Asiya. Et donc, on est entièrement matériel. On parle de perception ici. Donc, je répète. On dit que les tzadikim, les grands tzadikim, ils sont dans le monde de Hatzilut. Ça veut dire qu'ils sont dans le monde de Hatzilut. Ça veut dire qu'ils sont capables d'avoir une perception de Dieu totalement spirituelle, qui n'est pas du tout bridée par le matériel. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des tzadikim qui peuvent être là, mais ils ne sont pas là. Je crois qu'ils ne sont pas là, ils sont là, ils vivent ici. C'est-à-dire que leur perception du divin, comme Moshe Rabbeinu, leur perception du divin est tellement forte que par exemple Moshe Rabbeinu, quand il parle, on dit que c'est la Shrina qui parle par sa gorge. C'est-à-dire c'est pas que la Shrina est descendue chez moi, elle a pris forme chez moi et j'ai parlé. Non. Moshe Rabbeinu, il est tellement annulé à Kadosh Baruch Hu que sa perception est le spirituel. Il y a zéro matériel. Ça, c'est la première étape.
Au-delà des anges, alors. Au-delà même des...
Bien sûr, au-delà des anges. D'accord. Ensuite, deuxième niveau, c'est Bria. Bria, c'est, on a dit, c'est le niveau des Neshamot. Donc, c'est les signaux que notre Neshama peut percevoir à des moments particuliers, comme par exemple Rosh Hashanah, Kippour, etc. Et c'est aussi le monde des grandes Neshamot. Des grands Malachim, pardon. Des grands Malachim. D'accord.
Bria.
Bria, c'est le mode de la pensée. C'est-à-dire, c'est quand le spirituel commence à prendre forme par la structure. Comment ça prend forme ?
Moi, est-ce que tu ne dirais pas qu'avec le Bria, ce serait le spirituel limité ?
Oui, il oui, n'y a pas de problème.
Pas structuré, limité.
Oui, oui, j'ai compris.
Un tzilout, c'est le spirituel
qui a oui, limité. On revient au même...
Et encore un tzimtzum, le spirituel limité.
Mais la structure...
Et ensuite, on passe dans le sentiment, qui est encore un niveau de... Et l'action, qui est encore plus limitée.
Oui,
ce sont des niveaux de limitation.
De limitation, oui. Si vous voulez, on va pas... On va pas non, ce que je voulais expliquer par la structure, hein, c'est que le fait même qu'une pensée peut se structurer, qu'elle a affaire avec nous, ça veut dire qu'on peut la structurer, on peut ne pas la structurer, c'est déjà une limitation.
Il y a l'immatérielle.
Pardon ? Elle est ?
Tu voulais mettre en rapport l'immatériel avec...
C'est que la pensée, une pensée est immatérielle, mais pourtant on voit que la pensée a déjà un rapport avec la structure. Je n'ai pas dit que ça doit être structuré. Si on veut, je ne la structure pas. Mais c'est déjà lié à la structure, ça peut se structurer. Alors qu'au monde de Hatzilut, il n'y a pas de structure. Parce que c'est que du spirituel. Donc par définition, il ne peut pas avoir de structure. Il ne peut pas avoir de structure matérielle. On ne va pas dire le terme structure, c'est une limitation.
Je ne veux pas imposer le terme.
Oh oui,
il faut essayer de comprendre.
Ce que j'entends par structure, c'est le fait que ça commence à... Oui, c'est ça, ça commence à se limiter. C'est comme le...
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voile entre Ein Sof et Hatzilut. Il y a uniquement un rétrécissement de la lumière. Alors que partir
Non, s'il y a un voile, il y a un voile. Non, en pas dedans. Non, il y a un grand voile. Le principal du voile, c'est entre Ein Sof et Hatzilut. Alors. Donc encore une fois, Akadosh Baruch Hu, donc, première étape, c'est Hatzilut, c'est totalement spirituel. Après, qu'est-ce qu'il a expliqué ? Après, de spirituel, donc après on a dit, donc ça, la première étape, c'est les grands tzadikim. D'accord ? Comme Avraham Avinu, etc. Bon, Moshe Rabbeinu, etc. Ensuite, après, deuxième étape, on a dit, c'est les Neshamot.
Et les anges.
Les grands anges.
Voilà.
D'accord ? Qui sont capables de percevoir Akadosh Baruch Hu en mode pensée. Ça veut dire que c'est presque totalement spirituel. C'est vraiment, ils sont capables de quitter le matériel comme il faut quand même. Pas à 100%, mais presque à 100%. Ensuite, on a le monde de Yetzira. Yetzira en hébreu, c'est un du mot Yotzer. Yotzer en hébreu, c'est quoi ? Formation. Là, c'est déjà une forme. D'accord ? Là, c'est vraiment bien formé. Et là, Yetzira, ça correspond. Qui c'est qui est au monde de Yetzira ? C'est les Malachim. Les Malachim de bas niveau. Malachim de bas niveau. Et le quatrième monde, c'est le monde de Asiya. Le monde d'Asiya, c'est le monde dans lequel on vit. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi tu m'as dit que notre Neshamot, ils sont au monde de Bria ? Pourquoi, dans les faits, nous, on ne ressent pas le spirituel ? Ça, c'est parce que notre Neshamot sont bridés par le corps, par le gouffre. Le gouffre, il prend le dessus sur la Neshama. Ce qui fait que la Neshama ne peut pas s'exprimer. C'est écrit que la Neshama est en prison. Il faut la jailbreaker.
Elle est retenue. En fait.
Elle est en prison ici. Et des fois, il y a des failles comme ça. Des fois, il y a des failles dans le... Des fois, il y a des failles qu'on arrive à trouver. Et la Neshama arrive à sentir un petit peu le divin pour quelques instants. Mais après, elle retombe. Pourquoi elle retombe? Parce qu'en vérité, elle est toujours bloquée, elle est en prison. Donc, Atzilut, Bria, Yetzirah. Et c'est ce qui fait la différence entre les tzadikim et nous, etc. C'est exactement ce qui fait la différence. Les tzadikim, Atzilut, c'est déjà... Ça veut dire Atzilut, ça commence déjà à être bridé, puisqu'on a dit que le fait même que le spirituel... Que le fait même que le spirituel rentre dans des... Comment on appelle ça?
Dans des
récipients. D'accord. C'est-à-dire le fait même que le spirituel, par exemple, va être défini par une mitzvah, c'est-à-dire qu'il commence à passer par des canaux définis, c'est déjà une limite. Avant le Atzilut, il n'y avait pas de canaux. Le canal, c'est déjà une définition. Le fait même que, par exemple, il y a différentes mitzvot et différents canaux pour servir à Kadosh Baruch Hu, qu'il y a l'amour, qu'il y a la crainte, c'est des canaux tout ça. Le fait même qu'il y ait des canaux, c'est une innovation de Atzilut. C'est l'innovation de Atzilut, c'est de créer le concept des canaux, donc de commencer à structurer le spirituel. Après, quand on arrive au niveau de Bria, là, c'est carrément, on a commencé à matérialiser la chose, puisqu'on commence à y réfléchir. Une pensée, alors, bien sûr, il n'y a pas de pensée, ça ne veut pas dire qu'on va trouver une pensée quand on va aller à Bria, c'est une manière de dire que la perception du divin va être comme une pensée. Ça veut dire que c'est immatériel, mais ça commence à quand même prendre une forme matérielle.
Et quand tu parles de spirituel dans le monde de la Tidou,
oui.
C'est la Kedusha. Est-ce que ça a un rapport avec la Kedusha?
Non, pas forcément, non.
Qu'est-ce que c'est que le spirituel?
C'est une perception. C'est la perception du divin.
On ne peut pas parler de Kedusha.
Non. Bah, pas la Kedusha. Parce que la Kedusha, elle est partout. Elle est partout. La Shrina, c'est partout. C'est Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya. La Shrina, par définition, c'est Or en Sof. Donc la Shrina, ça descend partout. Après, c'est uniquement, c'est un concept qu'on a répété plusieurs fois. C'est que, enfin, qu'on a expliqué plusieurs fois, excusez-moi, pas répété. C'est que c'est une question de perception. Même chez nous, on avait expliqué que même en nous-mêmes, on peut sentir Atzilut, on n'y arrive pas. Mais on peut sentir en nous-mêmes comment des fois on est au stade de Atzilut, des fois on est au stade de Bria, des fois Yetzirah, des fois Asiya. En général, on est au stade de Asiya, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas du tout le divin. D'accord? Des fois, on peut ressentir le divin. Ça veut dire qu'on c'est en mode, c'est comme un sentiment. Ça veut dire que là, c'est toujours une forme matérielle. Ça, par exemple, je vais sentir Akadosh Baruch Hu au travers de la nature. Au travers du
quelque chose. Mais ce n'est pas un état normal.
Mais ce n'est pas un état normal, non. C'est jamais un état normal.
Donc, tu es transcendé à un moment, oui. tu passes de l'un à l'autre, mais tu reviens dans ton état naturel. Oui. C'est ça? C'est-à-dire tu vas sortir de ce monde, ou cet univers,
oui.
et puis tu vas vite revenir dedans, parce que de toute façon, c'est pas...
C'est un petit
oui. Donc, c'est ce qu'il y a, Guy? Je vais demander
à M. Palassène si vous comprenez la notion de spiritualité.
Non, on ne peut pas comprendre.
J'avoue mon incapacité.
Par définition, on ne peut pas comprendre.
On est après la rupture.
D'accord.
Mais avant la rupture,
on est après la rupture.
Après
la rupture, ce qu'on veut t'expliquer, c'est que pour transformer, pour prendre un concept
après
spirituel...
La rupture, puisque on est dans les choux.
Oui, monsieur. C'est la même lumière qu'avant la rupture.
Je vais te donner un exemple. D'accord, je te donne un exemple pour expliquer. Guy, je vais te donner un exemple pour expliquer ce que je veux dire. C'est comme des fois, hein, tu peux être bloqué sur un problème. T'es bloqué, t'as pas de solution. Tu réfléchis à quelque chose, t'es bloqué. D'accord? Et à un certain moment, tu vas voir une lueur. D'accord? Tu vas voir une lueur. Tu vas voir une lueur, tu te dis, ah, Eureka, j'ai trouvé. Bon. Au moment où tu as cette lueur, au début, à la première étape, d'accord? Un premier stade, si tu ne prends pas le temps de prendre cette lueur-là et de bien la comprendre, elle risque de s'échapper. Cette lueur-là, à cet instant, tu vois comme une lumière, comme ça. C'est une forme qui est presque spirituelle. Après, tu vas te mettre à y réfléchir. Tellement tu vas réfléchir que tu vas sentir la chose. Tu te dis, ah, ça y est, je le sens. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est descendu. D'accord? Et après, tu vas passer à l'action. Tu vois ces trois étapes? Tu vois comment la lumière, c'est-à-dire tout a démarré d'une lumière. Cette lumière-là, progressivement, je l'ai matérialisée. C'est un concept, c'est une idée. Au début, l'idée, je la voyais en flou, comme ça. Quand j'ai vu un flash, comme ça, qui m'est passé. Je prends ce flash, si je le laisse passer, il va partir. Ce flash-là, quand tu te l'imagines, il est presque spirituel. C'est abstrait.
Oui. Ah oui, c'est Rochma, c'est Rochma, ça. Ça, c'est le début de Rochma, cette idée qui vient comme ça.
Non, c'est pas Rochma bin Hadat. Parce que, non, justement, parce que là, on est en train de te dire, c'est Rochma bin Hadat, c'est déjà dans la première étape. La réflexion. D'accord. Oui. Première étape, c'est Chorma Minada. Deuxième étape, c'est les Midot, Chesed Gvura Tiferet. D'accord. Et troisième étape, c'est quand on passe à l'Asiya, quand on passe à l'acte. Donc, comme dans mon idée. Première, quand j'ai une lueur, d'accord. Dans cette lueur-là même, après, je vais devoir tout faire pour l'attraper, pour bien la comprendre. D'accord. Après, tellement je l'ai bien compris que je le sens. Donc, si c'est quelque chose qui doit amener un sentiment d'amour ou de crainte ou d'être attiré ou de ne pas être attiré, je le sens. Je sens que je l'attrape. Ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire que plus on avance et plus ça s'est matérialisé. Même en français, on dit matérialisé. D'accord ? Jusqu'à ce qu'au bout du compte, d'accord, je vais matérialiser ma pensée. Donc, j'ai lueur qui va se transformer. Donc, lueur qui est réflexion. D'accord ? Réflexion. Non. Donc, réflexion en général. Donc, Chokhma Bina Daat, il a dit Chabad, Biprina Chabad. Voilà. D'un coup. Donc, réflexion. D'accord ? Comment on peut traduire Midot ? Réflexion. D'accord ? Comment on peut dire que je sens la chose ?
Prise de conscience. D'accord ?
Non, prise de conscience, c'est date. Que je sens la chose. C'est-à-dire que...
Ça sent le cœur, ça.
C'est pas réalisation, non. La réalisation, c'est déjà assis à. C'est troisième étape.
Imprégnation.
Imprégné, bien. Imprégnation.
Notez, Yaakov...
Yaakov, brave Yaakov Osman.
Tu mets déjà notre question,
maintenant. Imprégnation. J'ai réfléchi au concept. Tu m'as envoyé une lueur, là, il faut que je la...
Va dans Dallas.
Bon, c'est
moi,
bon.
Petite précision, oui. Juste pour Atsilut, tu disais tout à l'heure, moi, cher Rabbeinu, ils sont Atsilut. Comment on peut être en même temps avec une Neshama qui est d'un niveau inférieur et être dans le niveau supérieur? C'est-à-dire que finalement, que ce soit Abraham, ils ont une Neshama qui est du monde de...
Oui, bonne question. Non, justement, on avait expliqué que les Neshamas des grands Tzadikim ne sont pas d'Embria du tout.
Ils sont même pas d'Embria.
Pas du tout, ils sont que dans Atsilut, ils sont au-dessus. C'est une gamme supérieure.
On peut quand même être...
C'est une perception, oui.
Comment ça peut tenir dans le physique?
Non, encore une fois, on ne parle pas de physique et pas de physique. C'est comme les enfants qui disent le Gan Eden est en haut, le Gan Eden et nous on est en bas. Il n'y a ni en haut ni en bas, c'est une perception. Le Gan Eden est ici. C'est parce que moi je perçois que le matériel, ma perception s'arrête au matériel. Et après, plus on va avancer, ma Neshama peut percevoir jusqu'au monde de Bria, c'est-à-dire qu'elle peut percevoir le divin en mode pensée, en mode lueur. Allez, on va appeler ça en mode lueur, d'accord? Et les tzadikim, c'est encore plus haut que ça, c'est tellement fort que c'est même pas défini par une lueur. C'est totalement spirituel. Je peux pas comprendre parce que je suis pas tzadik. Mais d'accord? C'est pour ça que vous avez remarqué que le Admor HaZaken ne s'est pas du tout focalisé sur Atsilut. Il a zappé pratiquement Atsilut. Tout de suite, il est parti sur Bria et Tira Asiya. Parce que Bria et Tira Asiya, on arrive à comprendre. La lueur. Donc, réflexion, imprégnation, réalisation, ça on comprend.
Chaque génération, ces neshamas, elles existent ici.
C'est très bon, là. Imprégnation. Ça veut dire que c'est pas seulement que je me suis attaché avec le concept, c'est que ça m'a imprégné, que je sens la chose.
Ça existe, imprégnation.
Ouais, d'ailleurs, il l'apprend et il n'y a plus qu'il comprend.
Enfin, c'est un concept qu'on a copyright.
C'est de l'art.
Si un jour je le rappelle dans un autre cours, je devrais dire copyright.
C'est obligé de le citer. Je n'aurais pas le choix.
Il y a des niveaux. Vous
imprégnez par les propos de Rabbeinu Shmuel. On a dit qu'il y a aussi des niveaux.
Oui, on a dit que dans chacun de ces trois grandes étapes, et dans chacune de ces étapes, il y a des myriades de nuances. C'est pour ça que j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Asiya, notre monde. Bien, même si on est tous dans le monde d'Asiya, on voit bien qu'il y a des myriades de nuances, sans fin. Il n'y a pas une personne qui perçoit Dieu de la même manière que l'autre. C'est sans fin. Alors, Vechen mi Bria le Yetira.
Donc, la prophétie, c'est un état de transe qui est à quel niveau?
La prophétie, c'est Bria. Sauf que, on dit que, qu'est-ce qui faisait les prophètes pour arriver à un état de prophétie? Ils étaient obligés de se mettre dans un état second. Tout le monde peut devenir prophète. Tout le monde peut devenir prophète.
Il ne
faut pas avoir une grande neshama. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Comment on fait pour devenir prophète? D'accord? Il devait donc, il devait beaucoup étudier, etc. Et il s'habituait à se mettre dans un état second. Par exemple, le roi David, il demandait à ce qu'on lui chante de la musique. Il y en a qui buvaient. Il y en a qui... En transe, par exemple. Il devait se mettre... Oui, écoute, le roi David demandait à ce qu'on lui chante de la musique. Ou des fois, c'est lui-même qui jouait. Pour, Vaya Kenagan Amnagan, pour se mettre dans un état second. C'est quoi cet état second? Cet état second, c'est quitter le matériel. Ça veut dire essayer de mettre de côté le gouffre pour que la Neshama puisse s'exprimer. Parce que la Neshama, elle est déjà abriée à elle. Seulement le problème, c'est qu'elle est bridée par le gouffre. Qu'est-ce qu'il fait le prophète? Le prophète, il va se mettre dans un état second, ça veut dire qu'il va essayer de mettre de côté son corps. Donc des fois, on retrouvait des prophètes en train de prophétiser qui sont en train de rouler par terre, parce que leur corps était ailleurs. Il est parti, leur corps ne fonctionnait plus.
Ça s'appelle danser, d'accord,
non? Tout ce qui existe dans la Kdusha, d'accord? tout ce qui existe dans la Kdoucha existe dans les forces du mal, monsieur David.
C'est une
d'accord.
Comment ?
Roulez par terre, plutôt breaké.
Donc la prophétie, c'est Bria. Maintenant, si vous avez un prophète qui est un grand tzadik et qui est en mode Atzilut, comme Moshe Rabbeinu, d'accord ? Pourquoi pas ? Par exemple, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, pour prophétiser, n'avait pas besoin de rentrer dans un état second, puisqu'il n'était pas du tout matériel. Vous comprenez ? Il était déjà directement Atzilut. Pourquoi un prophète a besoin de passer à Bria ? Parce que comme le prophète, à la base, il est comme tout le monde, mais il a besoin de couper avec son corps, donc il va essayer de faire ce qu'il peut pour essayer d'éveiller sa neshama qui, elle, est en Bria. Mais le tzadik, le grand tzadik, lui, c'est carrément autre chose. Lui, il est directement Atzilut. Ça veut dire que lui, il n'est pas du tout matériel. Sa perception est totalement spirituelle.
C'est ça, Moshe Rabbeinu. Comment se fait qu'il est resté 40 ans chez Pharaon ?
Chez ?
Chez Pharaon. Comment il est pour rester 40 ans chez Pharaon ?
60.
Dans un état comme ça. 40 ? 60. Non, 40 fois. 40 fois 3.
Même une journée.
Même une journée. Même une heure.
Comment il peut... C'est le déranger. Tu sais, des fois, tu vois, des fois, hein, tu sais, ça m'arrive... Bon, c'est un exemple, hein, bien sûr, parce que je dis pas que... Des fois, quand je vais à des smachot, je vois des fois des rabbanim qui sont assis à la table d'honneur, et tu regardes leurs yeux, tu as l'impression qu'ils sont ailleurs.
Oui, oui, c'est vrai.
Tu me suis ?
Oui, oui, oui.
Ça veut dire qu'ils sont là, mais bon, parce qu'ils doivent être là, parce que bon, des fois, il y en a qui ont des mariages tous les soirs. Ouais. Mais tu vois leurs yeux, tu sens qu'ils sont ailleurs. Il y a une fameuse histoire qu'on raconte aussi avec Rabbi Chaim de Brisk. Quand on raconte que... lui, il allait à tous les mariages, chaque fois qu'un de ses élèves l'invitait pour un mariage, par mitzvah, etc., il venait, toujours il venait. Il disait, d'après lui, c'est Kavod Derech Eretz. Toujours il venait, ça. On l'invitait pour une bar mitzvah d'un ancien élève, il venait. Alors une fois, il y a quelqu'un qui l'a posé, il a dit, mais je comprends pas, Bitul Torah. Je dis surtout que vous m'avez l'air actif, c'est-à-dire quand vous venez à la Simra,
vous
participez, vous discutez, etc. Alors il leur a dit, je vais t'expliquer, puisque tu me poses la question, je suis obligé de te répondre.
Je laisse mon corps. D'accord.
J'ai un double cœur. Dual corps.
Déjà, ça existait.
Et il lui a dit, il y a certaines personnes qui sont capables. Comme ça, il a dit. Ça racontait à la fin du. C'est une histoire qui racontait à la fin du Nefesh HaChaim. Il y a plein d'histoires comme ça qu'ils ont racontées. Il a dit qu'il y a certaines personnes qui sont capables de faire deux choses en même temps. Qui n'ont rien à voir.
Les femmes.
C'est un exploit. C'est comme j'ai entendu une fois un pianiste, d'accord ? Comment ils font les pianistes ? Normalement, les pianistes, avec une main, ils font la musique, et avec l'autre main, ils font les accords.
Ouais.
L'accord...
C'est comme de chanter de la musique.
Non, pas du tout. L'accord est accordé avec la musique, va avec la musique. Ouais. Ils ont raconté qu'il y avait un grand pianiste en Russie, un champion, j'ai oublié son nom, qui était capable de jouer deux mélodies différentes avec ses doigts. Normalement, c'est impossible. C'est très très dur.
Non, mais le chanteur qui joue la guitare, par exemple, quand la partition de la guitare n'est pas la même que le chant.
Oui, mais c'est une structure, ça fait partie de la structure de la chanson.
C'est déjà pas facile.
Non, ça c'est... Bon,
c'est arriver à désynchroniser.
Oui, désynchroniser. Oui,
c'est très très dur. C'est presque impossible.
C'est pas évident.
Non, le fait de jouer un accord que celui qui entend ne croit qu'il n'y a rien à voir, mais dans la tête du musicien, ça a à voir avec la musique. Ça, il peut le faire. Mais là, c'est avec les deux mains, il fait deux musiques différentes.
D'accord.
En Russie, j'ai oublié comment ils s'appellent. C'est impossible normalement.
Oui.
Enfin, c'est impossible, c'est très dur. Voilà, Rabbi Chaim de Brisk qui le faisait. C'est-à-dire, il était une simra.
Brisker.
D'accord. Enfin, il a dit que certaines personnes savent le faire. Hein, donc, je sais pas qui sait le faire, qui sait pas le faire.
Il devait se rencontrer son deuxième avec un autre deuxième, il devait se rencontrer pour la soirée.
C'est fou. Ça veut dire qu'il est en train de discuter avec vous. Et en même temps, il est en train de réfléchir à des vibrations.
On appelle ça un dédoublement de la personnalité.
C'est pas qu'il est en train de...
C'est autre chose.
Non, ça y est, des personnes qui peuvent être en train de parler avec vous.
Non, je
d'accord.
Pas.
Mais à part ça, en parallèle, ils sont en train de réfléchir à autre chose lié à la discussion ou lié à votre personnalité. Qu'est-ce que je dois dire, ce que je dois faire ? D'accord, bon, ça va.
Le temps.
Mais si c'est quelqu'un de rapide, tu n'avais pas le temps de faire ça.
Le terme que tu as employé, c'est il a répondu.
Ouais.
C'est parce que j'ai deux cœurs.
Non, il n'a pas dit j'ai deux cœurs. Il a dit parce que je suis capable de faire deux choses en même temps. Je suis capable de réfléchir à deux choses en même temps.
D'accord. Enfin, il n'a pas fait.
Ça veut dire qu'il peut être là en train de discuter avec quelqu'un, être tout souriant et participer à la discussion. Et son cerveau de l'autre côté, il est en train de réfléchir à un instant. Bon, pourquoi j'ai dit ça ? Ouais, tu m'as demandé comment Moshe Rabbeinu il a fait lorsqu'il était en Égypte.
Pour rester chez Pharaon.
Surtout qu'apparemment, hein, de ce que j'ai compris de ta question, pourquoi ça m'a fait réfléchir à ça ? Parce que de ce qu'on lit dans l'histoire, on comprend que Moshe Rabbeinu était mêlé à la vie du palais.
Oui.
Il était là, il donnait ses conseils.
Est-ce qu'il adhérait pour autant ?
C'est ça que je fais.
Bon, ça peut nous donner un début de réponse. Un début de réponse. En
fait, le double cerveau, tu veux dire
Ah. Que, pardon.
Je veux pas dire que Moshe Rabbeinu, il y a une révélation en lui, alors que c'était un homme relativement normal avant. Peut-être un peu exceptionnel, il y avait une cassure.
On dit qu'une Neshama de Hatzilut, c'est dès le début. Elle naît comme ça.
Donc ça colle pas.
Non.
Ça va, tu t'es fait un kiff. Alors, c'est Yaakov Osman qui a...
Il a déchiré la
tête. Non.
Tombé en flèche.
Non, je sais, c'est pas par rapport à Guy, ça n'a rien à voir.
Il n'y a pas eu une révélation supplémentaire ou alors un don supplémentaire qu'Hacham a fait.
Non, ce qui est possible, c'est que des fois un tzadik, qui peut, ça on voit dans les histoires, que des fois un tzadik a, ça veut dire en le vérité, une grande Neshama, mais il ne sait pas.
Peut-être en mode sommeil.
Il ne sait pas qu'il a cette Neshama.
Ce que je veux dire, que Hatzilut, c'est pas le cas.
Non, je répète, je viens expliquer. Par exemple, nous, on a des Neshamot qui sont de Bria, mais pourtant, on ne le sait pas. On ne perçoit pas le divin. D'accord ? Bon. Donc de la même manière chez un tzadik, d'accord, qui a une neshama de Hatzilut, on a des tas d'histoires dans lesquelles on raconte que des tzadikim sont partis rechercher des neshamot perdus, des grandes neshamot. On a des neshamot comme ceci qui sont perdus. Ça veut dire qu'ils sont en vérité une neshama de Hatzilut, mais ils ne le savent pas.
Donc c'est bon, alors ça marche alors.
Très bien. Oui, donc c'est possible que Moshe Rabbeinu ne le savait pas.
Oui,
mais sa neshama a toujours été une neshama de Hatzilut.
Là ça colle.
Donc
c'est une histoire qui sert à rien alors.
C'est l'idée de
tout. Mais si ton histoire, c'était pour m'expliquer comment ça peut marcher.
Ce que j'ai dit, c'est qu'on sait que Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est né, c'est écrit que dès qu'il est né, la maison s'est emplie de lumière. C'est-à-dire que depuis qu'il était petit, on voit que c'était quelqu'un spécial.
Alors.
Donc certainement qu'il était conscient qu'il était quelqu'un spécial, Moshe Rabbeinu.
Il était conscient.
Certainement. Pourquoi il a sauvé son frère? Pourquoi il a tué l'Égyptien?
Mais ça c'est rien, il y a plein de gens qui tuent leurs frères et qui sont égyptiens.
Alors
qui tue leur frère?
Non, mais il y a beaucoup de gens qui
tuent leur frère. Tu vois quelqu'un embêter un autre, tu le tues parce qu'il a embêté l'autre.
Si c'est mon frère, oui.
C'est ton frère. Donc il avait déjà un sentiment, un sacré sentiment de Abat Israël.
Mais c'est normal, si moi je vois quelqu'un qui se tue dans la rue, je vais le tuer avant.
Non, c'est déjà pas mal.
Mais c'est normal. Mais tout le monde fait ça.
Sa mère, c'est ça, non? Je crois, Dorothy.
Tu devais mettre enfant avec
sa mère. Sa mère l'a mangé, si
tu veux. Tu leur parles,
tu quittes sa mère. Il a passé tout son enfant chez Paro.
Non, mais imagine-toi, un mec, il veut tirer ton frère.
Il a donné à manger.
Le mec, il veut tirer
ton frère. Mais après, il a grandi chez Paro.
Son éducation.
Toute son éducation, elle a été faite chez Paro. Toute sa culture, il a été chez Paro. Bon, alors, on refait la parenthèse.
C'est
une parenthèse, quoi qu'il en soit.
Mais si ton frère peut tuer quelqu'un.
Bon enfin.
Alors, on y va messieurs. Vechen Ibria.
T'as des questions à la loi, alors je te réponds.
Non, la réponse de Juste Magie est acceptée.
On le finira pas en deux cours, le pain comme tête. Bon. Alors, Vechen Ibria le Yitzira, je fais quelques lignes encore. Qui or me at misère. Qui or me at misère. Amit la bèche baolam abria. Adain uprina tensof le gabe olam a yitira. Donc, la lumière. Ça veut dire la manière de percevoir les choses telles qu'elles se trouvent dans le monde de Bria, dans le monde de la lueur, le monde de la réflexion. Ça veut dire le monde dans lequel la perception est tellement spirituelle que est presque spirituelle. Adain ou prina tensef le gabola meyitira. Si on comparait le monde de Bria par rapport au monde de Yetira, on dirait que mais Bria, c'est l'infini. Parce que Bria, d'accord, parce que par exemple Yetira, c'est encore une autre descente beaucoup plus grande. V'IF Charles et la Bejbo, et là l'idée de Tsimtsum VLM. La seule manière pour passer du stade de Bria à Yetira, c'est encore une fois par une grande compression, une compression quantitative. Vechen mi Yetira le Asiya. Et de même, d'accord, donc on a compris la logique. La logique, c'est qu'il y a trois étapes, d'accord. Et pour passer à chacune de ces trois étapes, il faut une grande contraction. Comment chez Katou Makomacher, Biur, Shloshet, Nitsumi, Melou, Barichut. Les Karev, El Sichlenu, Adal.
Il
ne
donne pas d'exemple pour comprendre la.
Un entonnoir.
La contraction.
Lesquels?
Je donne un exemple.
T'as donné un exemple au départ, avec la psyloute, avec le bébé...
Non, alors oublie l'exemple du bébé, voilà, on donne un autre exemple, l'exemple de la lueur. Quand tu cherches quelque chose, tu es bloqué sur quelque chose, à un certain moment tu vois une lueur. Si tu t'arrêtes tout de suite, c'est quoi la lueur? Tu vois la lueur, pourquoi je t'appelle une lueur? Parce que tu vois ça comme une lumière, tu vois un flash. Tu sens que c'est quelque chose qui t'a éclairé. Ça veut dire que
la... descendre du monde absolu, t'as brillé.
Non, oublie, je te donnerai un exemple déjà. Attends, oublie. Tu as un problème dans ton magasin. Dieu préserve, t'as un problème. T'as une solution à régler. D'accord. Enfin, t'as un problème à solutionner. D'accord. T'as un problème. D'accord. Deux secondes. Tu sais pas quoi faire. D'accord. Tu réfléchis. À un certain moment, t'as une lueur. T'as un début d'idée qui arrive. Cette lueur, tu vois une lumière, tu sens que ça, on le sent quand on a réfléchi longtemps à quelque chose. Tu viens à un cours, par exemple, pendant une heure, Mendy il a parlé, t'as rien compris. Et après, au bout d'un certain moment, t'as une lueur. Je sens un petit peu ce qu'il veut dire, mais c'est qu'une lueur. Cette lueur-là, si tu la prends pas, et tu n'essayes pas de la saisir et de creuser, elle va partir. Deux secondes. Cette lueur-là, c'est quoi ? Cette lueur... Attends, mais monsieur David, on va pas se perdre, parce que sinon tu vas pas comprendre la suite. Cette lueur, c'est quoi ? Cette lueur, c'est presque spirituel. Elle n'a pas encore de forme matérielle. C'est presque du spirituel. Après, tu vas prendre cette lueur-là et tu vas la faire rentrer dans les détails. Tu vas dire, ah, je dois faire ci, je dois faire ci, je dois faire ça. Après, tellement tu as bien réfléchi que tu vas, d'accord ?
Imprégner.
Tu vas t'imprégner du concept.
On a parlé
imprégner de secondes.
Chapitre 2, 3, 4. On a parlé déjà.
On a parlé de
lueur. Oui, on a parlé.
Chapitre 3, on a parlé.
C'est pas pour autant qu'on a bien compris de quelle lueur on parle.
Seconde.
Donc après le cours, si tu veux bien.
Alors après, on passe à l'étape.
Tu veux bien m'éclairer, je veux bien m'éclairer.
Avec plaisir. Tu veux bien m'imprégner.
Tu veux bien venu.
Donc après, on a l'étape donc d'imprégnation. Et après, tu vas passer à l'action, tu vas faire ce que tu dois faire. Donc de la même manière, ça veut dire que pourquoi je t'amène cet exemple-là ? Pour te montrer que la même idée qui à la base n'était qu'une lueur, on a été capable de la matérialiser pour la transformer en quelque chose de concret, quelque chose que je vais faire. Tu comprends ? C'est la même chose qui était à la base une lueur qui s'est transformée en matériel. Donc là, tu as un exemple concret du spirituel qui se transforme en matériel. Bria, Yetira, Asiya. Réflexion, imprégnation, réalisation.
Je comprends l'état général.
Voilà. Tu as une lueur là. Mais attention, il faut bien réfléchir après le cours.
Ça reste un état général.
Et ce qui compte, c'est la réalisation.
Oui, c'est ça. Ce qui compte, c'est la réalisation.
Oui, il va falloir une bon. Pour en
faire... Alors que là, on aurait l'impression qu'il y a des mondes supérieurs et des mondes inférieurs.
Bon, je vais finir quand même sur cette ligne-là. D'accord ? Mais bon, ça, on développera la semaine prochaine. Après le cours, si vous voulez, je... Mais t'achlif kalatim tsumim hu, qui est délivré au goufa Adam. Le but de toutes ces compressions. Donc, il m'a dit tout d'abord, il y a eu la rupture. Après la rupture, il y a eu Atilut, totalement spirituel. Après il y a eu le matériel en mode réflexion. Après il y a eu le matériel en mode imprégnation. Après il y a eu le matériel en mode réalisation. Bria, Yetira, Asiya. Pour qui tout ça il a fait ? Dieu a fait tout ça. Pour qui tout ça il a fait tout ça ? Ok, délivre Goufa Adam Achombri ou le Kefal Estracha. Tout ça, il a fait pour nous. Comment ? Pourquoi ? On expliquera avec Ratachel la semaine prochaine.
Ah non. sachant que pourquoi...
Donc, je vais résumer parce qu'on s'est un peu évadé sur plusieurs points dans ce cours. Mais ce qu'il faut retenir de ce cours, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on a expliqué, c'est la notion de Atzilut, Bria, Yetira, Asiya. Atzilut, Bria, Yetira, Asiya, c'est une différence de perception. Pas une différence de niveau, de monde. C'est une différence de perception. C'est des modes, des suites. D'accord ? ABCD. D'accord ? Oui, parce qu'on a déjà vu, bien sûr, Atzilut, Bria, Yetira, Asiya, on l'a déjà vu dans chapitre 41, on l'a déjà vu dans chapitre 22.
On
a parlé de ça aussi en chapitre 3.
Enfin, la différence entre l'âme animale et l'âme divine.
Ouais.
On avait fait déjà.
D'accord. Donc Atzilut, t'inquiète pas, après on aura le résumé pour résumer tout ça. Atzilut, Bria, Yetira, Asiya.
Il est sur le net.
Il est sur l'iPhone.
Oui.
T'as pas d'iPhone, t'as pas de cours.
Bon, je me fais oublier ce que je voulais dire. Seconde. On est en train de... Rappelez-vous ce qu'on est en train de faire ici. On est en train pour expliquer pourquoi on doit être reconnaissant envers Kadosh Baruch Hu, on a essayé de mettre des repères. Le chapitre 48, les repères qu'on a mis, on a expliqué comment on est insignifiant par rapport à Kadosh Baruch Hu. Qu'en vérité, l'homme vaut rien par rapport à Kadosh Baruch Hu. Comment Kadosh Baruch Hu a fait des ruptures, il a des compressions, et mode sauvé, mode nemalé, mode dit, mon non dit, à Kadosh Baruch Hu entièrement compressé. Là, ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'expliquer que Kadosh Baruch Hu avait un business plan.
Bien vu.
Et oui. Il a un plan ici. On voit clairement qu'il a un plan. Et quand on analyse le plan, on va comprendre. Oui, justement, non, la Torah, c'est le
moyen.
La Torah, c'est le moyen. La Torah, c'est le plan.
Le plan, c'est
comment on appelle ça ? C'est le storyboard.
Bon d'emploi.
C'est le scénario.
T'as toujours une question à la fin du cours. T'as compris ce qu'on a dit ?
Ouais. Prétentieux.
Hein ?
On voit la question par les SMS.
C'est ça la question.
Elle est trop modeste, là.
Des fois, on a peur de dire qu'on a compris, tu sais. Si on dit qu'on a compris, C'est pas normal.
À demain.
Voilà. Bon, ça va être bon aujourd'hui.
Ah ouais.